Voilà, la semaine passée, je vous ai parlé de sujet de vaincre les passions, vaincre les convoitises, toutes ces choses, l'envie, etc. Vaincre la chair finalement, hein, vaincre la chair. Et je vous ai dit, ben, qu'est-ce que propose Dieu, qu'est-ce que propose la Bible, c'est de marcher par l'Esprit, d'accord? Alors je vous ai dit, bon, écoutez, c'est quelque chose de basique, je vais dire comme ça, et pardonnez-moi si certains connaissent vraiment ça par cœur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut, comme je disais, l'Église, c'est un peu comme une école, mais il n'y a pas la maternelle est mélangée avec les humanités, mélangée tout, ça va. Mais finalement, il s'est avéré que ce n'était pas si simple que ça à comprendre, et que ce n'était pas si évident que ça, et que c'était quand même fort riche. Donc, j'ai décidé de parler simplement de ce sujet, de comment marcher par l'Esprit, et je vais prendre le temps. Enfin, quand je dis je vais prendre le temps, je veux dire que je ne finirai pas aujourd'hui. Je me dis non, il y a trop de choses. Ouh là, j'ai passé du temps. Je dis non, ça va. Ok, il y a vraiment trop de choses à dire. Alors, hop, je classe et je dis ce que je peux aujourd'hui. D'accord ? Et on va commencer par le début, par ce qui est par les bases, par ce qui est peut-être le plus simple. Parce que c'est important de savoir comment marcher par l'Esprit. Parce que beaucoup de chrétiens se trouvent. Alors je vous mets déjà l'eau à la bouche parce que vous ne devez pas répondre à tout aujourd'hui, mais beaucoup de chrétiens se trouvent dans des situations dans leur vie chrétienne où ils disent « Oh Seigneur, ça ne va pas parce que les mauvaises pensées sont toujours là, il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises choses, il y a des actes que je résiste un moment puis je n'y arrive plus, enfin, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas dans ma vie, je sens la colère peut-être, enfin, toutes sortes de choses, moi je ne sais pas, je ne vous connais pas hein, intimement, le Seigneur sait, et puis ils disent non ça ne va pas, et puis alors finalement ces chrétiens des fois se retirent même de la présence de Dieu et disent mais oh Seigneur je ne peux pas, je peux plus venir vers toi, je ne viens pas vers toi parce que je suis trop sale. Et puis alors, des fois, ils en arrivent même à se décourager au point de ne plus venir à l'église, peut-être certains. Et d'autres, ils s'éloignent de Dieu, ils s'éloignent même dans la prière, etc. Parce qu'ils disent, oh, finalement, ils disent ceci, Seigneur, je viendrai vers toi, je veux venir vers toi, mais je viendrai vers toi quand j'aurai réussi à vaincre ma nature pécheresse. Hein? D'accord? Vous connaissez pas un peu ça? Vous voyez un peu le truc? Mais ce n'est pas comme ça. Parce que si vous attendez d'avoir vaincu votre chair pour venir dans la présence de Dieu, vous n'y viendrez jamais. Ah oui, vous n'y viendrez jamais. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se sanctifier, ce n'est pas, parce que ce n'est pas ça que je veux dire. La sanctification, j'en ai assez parlé, enfin assez, jamais assez, mais j'en parlerai sûrement encore. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut venir dans la présence de Dieu. Ça va? Ça c'est un premier point, mais je ne répondrai pas à tout aujourd'hui, mais c'est une première chose que je voudrais vous dire avant de commencer. Il ne faut pas réagir comme ça. Et on va apprendre des choses la fois prochaine. Je l'espère, on parlera de comment arriver justement à marcher par l'Esprit et donc vaincre la chair. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais poser quelques bases quand même. Et donc, je vous mets l'eau à la bouche, comme je dis. Comment arriver à marcher par l'Esprit? Comment arriver? Et aujourd'hui, donc, je ne vais pas dire l'introduction, je ne vais pas dire ça, mais je voudrais quand même poser les bases. Et avant, je voudrais faire un petit, comment dire, appendice, comme on dit, mais je voudrais que chacun s'y retrouve dans les expressions bibliques qui parlent du Saint-Esprit. Ça va? Parce que certains ne comprennent pas. Alors pardon, pour ceux qui comprennent depuis longtemps, tant mieux, mais il faut que tout le monde comprenne. Ça va? Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas une étude biblique, quoique c'est un peu une étude biblique, mais on n'a pas le temps vraiment de poser des questions, de parler, etc., de tout ça. Et sachez que, si c'est le cas, j'essaie toujours de répondre aux questions. Pas quand j'ai la réponse, en tout cas. Ça va? Alors, j'aimerais donc que vous compreniez tous certaines expressions sur le Saint-Esprit. Je m'explique. La Bible parle de naître du Saint-Esprit, de marcher par l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir la plénitude de l'Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Et on parle parfois d'être revêtu d'une puissance du Saint-Esprit. Oh là là, vous vous y retrouvez dans tout ça? Ne répondez pas. De toute façon, vous ne répondez pas alors. C'est parfait. Mais certaines ne s'y retrouvent pas dans tout ça. Et donc, je vais essayer qu'on s'y retrouve un petit peu. Et donc, je vais être bref, d'accord? Si vous voulez me poser des questions après, je l'ai dit, vous pouvez. Alors, on va commencer par le début. Naître, être né du Saint-Esprit. C'est quoi? Mais c'est tout simplement ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Là, je pense normalement tout le monde devrait avoir compris. La nouvelle naissance, c'est quoi? Parce que certains peut-être ne savent pas. On ne sait pas. C'est recevoir la vie éternelle. C'est le jour où je décide de suivre Jésus-Christ. Et je me repens. Me repentir, c'est quoi? C'est demander pardon. Alors là, vous voyez, c'est vraiment la base. Je demande pardon à Dieu. Je me retrouve face à lui. Je dis, Seigneur, j'ai péché dans ma vie. J'ai besoin d'être pardonné. Je te demande pardon. Vraiment. Je me repens. Je me repens. C'est pour ça qu'on parle de conversion. Ça veut dire, je change, je fais demi-tour, je me convertis. Je décide de te suivre, je te demande pardon vraiment. J'ai besoin de toi comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je me repens, ça veut dire que ma vie, je fais demi-tour. Parce que je veux te suivre. Et je vais abandonner des choses. Et justement, on va tomber dans le sujet. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et certains, je dis déjà un petit truc comme ça, certains peuvent témoigner ici que quand ils se sont tournés vers le Christ, des choses sont tombées. Parce que Dieu a commencé à changer les pensées, les désirs. Et des choses sont tombées. Lui-même a fait quelque chose. Lui-même et lui-même continue à faire quelque chose. Bon, ça va? Donc ça, c'est naître de l'esprit, c'est être né de nouveau. Parce que ce jour, le jour où tu fais ça, où tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu dis ouais, tout ce que je viens de dire maintenant. Eh bien, le Saint-Esprit est déposé en toi. Le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on appelle ça la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit. C'est dans la Bible, dans toutes les Bibles. Hein, toutes, absolument toutes les traductions, de toutes les confessions possibles. Voilà. Et Jésus dit, tu es né de nouveau, le Saint-Esprit. Donc tu es né du Saint-Esprit ce jour-là. Marcher par l'Esprit, on va le voir. D'accord? Marcher par l'Esprit, eh bien c'est tout simplement, c'est être guidé par l'Esprit. C'est suivre non pas nos propres pensées, notre propre chair, mais c'est suivre la direction de l'Esprit de Dieu. Dire, c'est suivre Dieu, on pourrait dire ça plus simplement, suivre Dieu. Ça, c'est marcher par l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Parce qu'on parle souvent, la Bible dit, soyez rempli du Saint-Esprit. On parle de la plénitude aussi du Saint-Esprit. Eh bien, sachez que c'est à la fois une grâce, donc ça veut dire que une grâce, ça veut dire que quand tu as une grâce, ça veut dire que tu reçois quelque chose que tu n'as pas mérité. Ça va? C'est à la fois une grâce, donc tu as cette plénitude, tu es rempli du Saint-Esprit, mais c'est aussi un ordre. La Bible dit « soyez remplis du Saint-Esprit ». Et donc, ça veut dire qu'il y va aussi, même si nous n'avons pas, je ne peux pas dire maintenant « oh, je vais me remplir du Saint-Esprit ». Je ne peux pas faire ça sans Dieu, je ne peux pas faire ça comme ça. C'est Dieu qui remplit du Saint-Esprit, c'est pour ça que c'est une grâce. Il y va quand même de ma volonté. D'accord? Être rempli du Saint-Esprit signifie quoi? Signifie le laisser occuper, laisser Dieu par son esprit, parce que Dieu ne vient pas en la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire comme il est venu ici sur terre en chair et en os, c'est ça que je veux dire. D'accord? C'est le Saint-Esprit. Qui est Dieu, allez, parce que je m'en mêle, enfin je m'en mêle, c'est parce que je me dis vous n'allez pas comprendre. Celui qui est Dieu maintenant dans nos vies, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Bon, soit. Allez, je continue. Être rempli du Saint-Esprit, donc, signifie lui laisser occuper chaque partie de notre vie. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Et ça, j'ai le choix de le laisser occuper chaque partie de ma vie ou pas. Être rempli du Saint-Esprit, ça n'intéresse pas que nos actes visibles. mais aussi nos pensées, nos motivations les plus profondes. Le psaume 19-15, tu peux l'afficher, mais je le lis, si tu l'affiches après, ce n'est pas grave, j'aurais dû te prévenir avant. Le psaume 19-15 dit ceci, « Reçois favorablement, voyez, il s'adresse à Dieu, il dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, reçois favorablement les sentiments de mon cœur. Voyez donc, l'Esprit, le Saint-Esprit, vraiment doit occuper nos cœurs au plus profond. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est vraiment une grâce que de sentir et d'être dans la plénitude du Saint-Esprit. D'accord ? Et de pouvoir sentir sa présence. Mais nous avons le choix. Voilà. Alors, maintenant, on parle d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors, que croyons-nous ? Parce que certaines confessions disent qu'être baptisé du Saint-Esprit, c'est le recevoir au moment de notre conversion, ce que je ne crois pas, ce que nous ne croyons pas du tout, et ce que beaucoup ne croient pas. Être baptisé du Saint-Esprit, d'ailleurs, baptisé veut dire, vous tous qui avez été baptisés par immersion, vous savez ce que ça veut dire, le baptême, c'est une immersion, c'est être plongé, d'accord ? C'est pour ça qu'on baptise par immersion et pas par aspersion. Donc être baptisé du Saint-Esprit, c'est aussi une grâce, c'est vraiment une grâce. Mais c'est une immersion spirituelle de notre être intérieur. Donc quand je suis baptisé, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est vraiment ton esprit qui est vraiment baigné, immergé dans la présence de Dieu. Et c'est fréquemment accompagné par des signes visibles, comme le parler en langue ou la prophétie, etc. J'ai bien dit fréquemment, d'accord ? J'ai bien dit fréquemment parce que ce n'est pas toujours. J'insiste moi toujours personnellement, beaucoup, sur la liberté de Dieu. Et le fait qu'on ne doit pas, c'est-à-dire la liberté du Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'agir comme ça avec toi parce qu'il agit comme ça avec tel ou parce qu'il agit comme ça avec tel. Et il faut faire très attention d'ailleurs de prendre des récits bibliques et d'en faire des doctrines. On voit là, le Saint-Esprit agit comme ça avec les premiers disciples, etc. Donc voilà, vous voyez bien que c'est comme ça que, par exemple, on voit qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit et puis ils parlaient en langue. C'est pour ça que certains croient que quand on est baptisé du Saint-Esprit, la preuve c'est qu'on parle en langue. Alors oui, ça peut être une preuve, ça peut être un signe. Mais on en déduit aussi parfois que celui qui ne parle pas en langue n'est pas baptisé du Saint-Esprit et que c'est un sous-chrétien parce qu'il n'a pas reçu la puissance du Saint-Esprit, etc. Tout ça, il faut éviter. Il faut vraiment éviter. Il faut tout simplement retenir qu'être baptisé du Saint-Esprit, c'est une grâce qu'on reçoit et donc qu'on n'a pas méritée. Et on est immergé dans la présence du Saint-Esprit. Et oui, effectivement, ça se manifeste souvent par des dons spirituels et des choses semblables, mais ce sont des grâces. Des gens, parfois, n'ont même pas encore entendu parler du mot sanctification, sont à peine convertis, qu'ils reçoivent cette grâce-là, on ne sait pas pourquoi. Et donc, ce n'est pas la même chose, donc être baptisé du Saint-Esprit, même si c'est être immergé dans sa présence, plongé dans sa présence, ce n'est pas la même chose que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est différent. D'accord ? Vous comprenez ? Et si vous avez encore des questions, je l'ai dit, vous pouvez me poser les questions après. Je peux, parce que j'ai le choix de marcher par l'Esprit, et donc, en marchant par l'Esprit, d'être rempli, d'être un homme rempli du Saint-Esprit, qui marche par l'Esprit, et qui vit la plénitude du Saint-Esprit. D'accord ? Vous voyez la différence ? Ça va ? Alors, les dons de l'Esprit sont des dons surnaturels. Parce qu'on dit parfois, on prie pour recevoir les dons de l'Esprit. On parle dans la Bible des charismes, des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est quoi ? C'est une grâce. Encore une fois, je voulais expliquer, une grâce, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc, un don spirituel n'est pas du tout, mais c'est vraiment important, n'est pas du tout, parce que les chrétiens souvent se trompent avec ça, un don spirituel n'est pas du tout une preuve de sanctification ou d'une élite dans l'Église. Ça va ? Pas du tout, parce que c'est une grâce. D'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est quand vous lisez les épîtres de Paul, ou surtout la première, de Paul aux Corinthiens, et ces Corinthiens, cette Église, avaient tous les dons spirituels possibles, mais ils vivaient dans un désordre incroyable. D'accord ? Donc, c'est une grâce. Et d'ailleurs, parfois même des gens peuvent avoir un don spirituel et l'utiliser, Et puis on s'aperçoit qu'ils vivent dans une vie qui n'est même plus en ordre avec le Seigneur. Et alors les chrétiens ne comprennent pas, ils disent, mais donc c'est la preuve que ce qu'il fait, ce n'est pas grave, puisque le Seigneur ne lui retire pas son don. Et alors on est très étonné de ne pas voir un Dieu qui est comme ça, vous voyez ? Non, Dieu a donné. Puis après, évidemment, il ne faut pas croire. Ça va tourner, ça va sortir mauvais. Hein. Mais ça existe. On a vu des gens qui prêchaient la parole de Dieu, puis il y a eu des miracles, etc., parce qu'ils avaient un don, et puis on s'aperçoit qu'ils vivent dans l'adultère. Et alors on est étonné. Eh bien, oui, c'est parce que les dons spirituels n'ont rien à voir avec la sanctification. Maintenant, évidemment, Dieu n'est pas fou. Quelqu'un qui cherche à être rempli du Saint-Esprit, à obéir à Dieu, à le servir, etc., c'est sûr que Dieu va le qualifier et éventuellement va lui accorder des dons s'il estime qu'il en a besoin. N'est-ce pas? Ça va? D'accord? Alors voilà. C'est quoi les dons spirituels? Les dons spirituels, donc, ce sont des dons extraordinaires. Ce ne sont pas les dons, ça n'a rien à voir avec les dons naturels, ce sont les dons de l'esprit. Alors, quand je dis que ce sont des dons extraordinaires, ça veut dire que, dans le sens des dons surnaturels, dans le sens qu'ils ne sont pas nécessairement miraculeux, mais dans le sens qu'ils proviennent, non pas de notre nature personnelle, je veux dire, d'accord, parce que vous êtes tous différents les uns des autres, vous avez des dons différents, mais ils proviennent du Saint-Esprit. Ce n'est pas nécessairement, donc quand je dis surnaturel, ça veut dire que ça ne vient pas de notre nature. Vous comprenez l'expression surnaturel? Parce que parfois, le don spirituel, ben oui, il y a le don de guérison, parler en langue, don de miracle, etc. Oui, là, c'est vraiment ce qu'on comprend bien, alors ce que c'est surnaturel dans ce sens-là. Mais quand on reçoit de Dieu le don de libéralité, le don de foi, des choses qui sont aussi surnaturelles, qui viennent aussi de l'esprit, mais ce n'est pas on dit, bah ouais, c'est un miracle. Quand vous voyez quelqu'un qui reçoit de Dieu, mais vraiment il a la foi, et il est libéral, c'est-à-dire il reçoit vraiment ce don-là, il donne de son argent, etc., pour soutenir, et puis le Seigneur le bénit, etc., Dieu l'a qualifié pour ça, on dit, bah ouais, bon, on ne dit pas c'est surnaturel, on dit juste il est fou. Non, et pourtant il aime le Seigneur et c'est le Seigneur qui l'utilise comme ça, d'accord? Et il y a d'autres dons, n'est-ce pas? Ça va? Donc c'est un don qui vient de l'Esprit. Ce n'est pas en opposition avec les dons naturels, n'est-ce pas? C'est souvent complémentaire, quoique parfois ça peut être en opposition. Mais voilà, un don naturel c'est différent. Bon, je suis doué pour ça. C'est de ma naissance. On peut dire que ça vient de Dieu aussi, mais ça n'a rien à voir avec les dons de l'Esprit. Ça va? Alors on parle aussi d'être parfois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien oui, parce qu'il faut savoir que on peut être dans une circonstance, et c'est ça être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On voit des textes dans la Bible, comme par exemple Pierre, à un moment donné, on voit ça dans Actes 4, 8, tu n'as pas besoin de le prendre, tu sais, parce que c'est juste, on voit que Pierre, ils sont face à leurs accusateurs, les sacrificateurs, etc., et Pierre, on voit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, et il commence à parler, et on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et on va dire dans ce cas-là, quelque part, qu'il est revêtu d'une puissance du Saint-Esprit. C'est comme une onction spéciale, particulière, que tu peux recevoir pour un... Vous voyez, c'est différent d'un don spirituel que tu reçois, que tu as, mais c'est pour un moment donné... Pour une chose spéciale, tu reçois il y a une onction, il y a quelque chose où tu sens que l'Esprit t'a utilisé, ou tu le sens peut-être pas, mais en tout cas il l'a fait, parce que sentir c'est encore autre chose, c'est pas le plus important. Et tu as une onction de l'Esprit. Vous voyez, quelqu'un peut prêcher, puis d'un coup ben, il prêche comme d'habitude, voilà, et puis d'un coup, waouh, il y a une onction particulière de l'Esprit. Donc on appelle ça vraiment d'être revêtu d'une puissance du Saint-Esprit à un moment donné. Et c'est une grâce, encore une fois. Ce n'est pas mérité, ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Ça va? Voilà un peu de vocabulaire. Alors pardonnez-moi ceux qui connaissent déjà tout ça, mais ça, il semblait que c'était nécessaire que tout le monde... Ça va? Un jour peut-être on aura l'occasion de faire des études bibliques là-dessus, mais il me semblait nécessaire que tout le monde comprenne au moins quelques bases. Ça va? Alors, donc, mon sujet est celui-ci, comment marcher par l'esprit. Eh bien, on va un peu plus parler de marcher par l'esprit alors et de voir ce que c'est. Ça va? Eh bien, je vous l'ai déjà un petit peu dit, marcher par l'esprit, c'est marcher dans sa vie, c'est marcher déjà. Attention, c'est pas être assis par l'esprit en attendant que il vous fasse lever. Ah, je marche par l'esprit. Ah, c'est magnifique. Je commence à faire. Je vais faire des choses. C'est pas. Mais oui, mais des fois le chrétien, il est un peu, mystique, mais dans le mauvais sens. Hein? C'est pas comme ça. C'est marcher. C'est marcher en étant conduit. En étant conduit, évidemment, et dirigé. Ça va? Alors, je vais lire un petit texte. C'est dans on l'a déjà lu la fois passée, c'est dans Galates 5, et là tu peux le prendre, mais c'est dans Parole Vivante. J'espère que, s'il est déjà en Parole Vivante, c'est bien Jérôme, si tu peux regarder. Et Paul dit ceci en s'adressant aux Galates. Et il dit, voici mon conseil. Marchez sous la direction, donc marchez sous la direction de l'Esprit. Et vous ne risquerez, écoutez, c'est pas grave si c'est pas affiché, hein, d'accord? Marchez sous la direction de l'Esprit. Verset 16. On va attendre que nous voilà. Allez, voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas. C'est pour ça qu'on va devoir parler comment il faut faire, parce que certains disent, ouais, mais malgré tout, ça ne va pas. Bon. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Voilà. Votre être naturel vous demande des choses, bien marchez par l'esprit, comme ça vous ne risquerez pas de lui obéir. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est-à-dire qui n'est pas livré et conduit par le Saint-Esprit. D'accord? C'est ça, marcher par l'esprit. Je ne vais pas trop m'étendre encore là-dessus, j'en ai parlé la fois passée, mais c'est ça, marcher par l'esprit. Ça va? Je peux vous dire déjà quelque chose. Si, je l'ai expliqué tout au début, si vous avez accepté le Christ comme votre Seigneur, vous vous êtes repenti, vous avez dit, Seigneur, je te demande pardon, je veux changer de vie. Je veux changer de vie, je veux te suivre maintenant. J'ai besoin que tu me sauves. Sauve-moi, parce que je suis perdu. Parce qu'il faut réaliser ça aussi, évidemment. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il faut réaliser ça aussi. Que sans Christ, qui est mort sur la croix, qui a payé pour moi, je suis perdu. Je suis condamné. Et c'est pour ça que le péché, c'est grave. C'est pour ça aussi qu'on ne marche pas assez par l'esprit. Parce que nous considérons trop comme... nous considérons le péché comme une banalité parce que ça touche tout le monde. Et parce qu'on se dit, mais personne n'est parfait. Or, ce péché, il a conduit le Fils de Dieu à mourir, à être persécuté sur la croix pour moi. Et donc, je ne peux pas considérer ce péché-là comme quelque chose de banal. Je dois marcher par l'Esprit. C'est vraiment important. Alors, je vais un petit peu commenter ce texte, peut-être pas en décortiquant chaque mot, hein, c'est pas ça, mais marcher selon l'esprit donc, c'est plutôt des remarques que je vais faire là-dessus. Et je voudrais vous faire une remarque, parce que souvent c'est quelque chose qui peut, il y a des choses qui peuvent atteindre les églises parfois à cause des mauvais enseignements. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas jouir d'une liberté indisciplinée et anarchique. Parce que parfois c'est comme ça, les gens disent « Ouais, mais moi je suis l'Esprit de Dieu, je fais ce que Dieu me demande. » Ok, tu fais ce que Dieu te demande, tu fais ce que Dieu te demande, mais on ne sait rien te dire, sinon tu te mets en colère, on ne sait pas te donner des directives, tu dis « Non, moi l'Esprit m'a dit autre chose et tu ne sais pas te soumettre, etc. » Mais ça c'est n'importe quoi, ça ce n'est pas marcher par l'Esprit, ça c'est marcher dans le désordre. Parce que l'Esprit ne peut pas enseigner des choses contraires à sa parole. Et dans sa parole, il y a aussi un mode d'emploi. sur l'Église, sur la manière de se fonctionner, de se soumettre les uns aux autres, etc., etc. D'accord ? Ça va donc. Sachez que marcher par l'esprit, ce n'est pas jouir d'une liberté anarchique. Ça va ? Je vais l'appeler comme ça, indiscipliné. D'où vient entre autres l'idée que, à cause de la grâce, que cette grâce donc nous permet d'agir à notre guise, dans l'Église. Je dis dans l'Église, parce qu'ailleurs aussi. Mais c'est n'importe quoi et on rencontre ça. Alors je pense à rien de particulier ici, ni à personne en particulier. Heureusement, tant mieux, mais il y a des choses quand même qui sont bonnes à dire. D'où vient l'idée que la grâce nous permet d'agir à notre guise dans l'Église? C'est quoi cette histoire? Ça, ce n'est pas marcher par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit ne signifie pas que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Mais ça signifie que nous sommes libres de vivre une vie consacrée. Ça veut dire qu'avant, j'étais sous l'emprise du péché parce que la loi, on parle de la loi du péché et de la mort, c'est une loi le péché. Le péché c'est une loi, je vous explique. Ça veut dire que c'est une loi dans notre chair et cette loi n'a pas d'exception. Ma chair y est soumise. C'est comme ça. Et je ne peux pas, ma chair ne peut pas faire la volonté de Dieu par sa propre volonté. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parce qu'il y a une loi dans ma chair. Et cette loi mène à la mort. Vous voyez? Et donc, c'est l'esprit, mais ça on le verra plus tard, je vous dis des petits trucs, mais c'est l'esprit, cette nouvelle, c'est la loi de l'esprit, de vie qui est en moi, qui est plus forte. Amen. C'est ça qui me libère de la loi du péché et de la mort. Et donc, ça ne signifie pas que je fais ce que je veux, mais ça signifie que je deviens par l'esprit capable, apte à vivre une vie consacrée, libérée de la puissance du péché et de la mort, de la chair, par l'esprit. Et donc c'est ça. Donc je ne fais pas, vous avez compris ? Ça va ? Donc c'est ça, mais on va voir comment après, mais il faut savoir ce que c'est, parce que je ne veux pas le répéter chaque dimanche, voilà ce que c'est. Ce que nous étions incapables de faire quand nous étions encore prisonniers de la loi du péché, dans notre chair, eh bien, nous devenons capables de vaincre ces choses. Et je vous donnerai d'ailleurs un petit témoignage, puisque pour ceux qui, peut-être certains ne le savent pas, mais j'ai passé de toxicomane, incapable de dire non. Incapable de choisir, même avec toute la volonté du monde, incapable. Pas possible. Impossible, tout simplement. Et puis c'est devenu une réalité. Ah, ça devient possible. Ça devient possible et je suis libre. Oh, j'ai encore le choix. On peut présenter devant moi quelque chose de tentant, mais j'ai la liberté de dire non. Ah oui, je sais, c'est agréable, mais non. J'ai choisi la liberté. Pas la liberté de faire ce que je veux en disant, bon, de toute façon, c'est pas grave, après je me repentirai. Non. Parce que ça, c'est ça qui mène au lien. Mais choisir de faire ce que l'Esprit me dit de faire. Je peux, je suis libre. Non. D'accord ? Alors, où en étais-je ? Voilà. Oui, marcher par l'esprit donc se manifeste par un fruit, c'est le fruit de l'esprit par le fruit qu'on porte. Donc, comment savoir, et là je vais relire un petit peu le texte qu'on a lu la fois passée, comme ça vous allez, on l'a déjà lu, vous allez j'espère mieux le saisir. Comment savoir, ça nous amène à ça, comment savoir si je marche par l'esprit? Parfois certains se disent, mais est-ce que je marche par l'esprit moi? Alors vous allez voir que, en lisant ces textes, vous allez voir que, eh bien, ce n'est pas tout à fait ça, parfois. Mais dans tel domaine, vous allez voir, mais quand même, là, ça va. Mais, bon, vous allez peut-être voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et pourtant, Dieu nous promet cette liberté. Et s'il le promet, c'est que c'est possible. D'accord ? Et on verra ça plus tard. Désolé. Alors comment savoir si je marche par l'esprit? Eh bien, il existe un test. Vous savez, un petit peu comme les tests qu'on fait en fin de cycle d'études humanitaires, enfin les humanités souvent, et alors on passe un test pour savoir, parce que parfois les jeunes disent, je ne sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Lui, il passe un test avec ce qu'ils aiment. Et, comment on appelle ça, Nathalie? Test d'orientation. Voilà, je ne trouvais pas, j'y avais pensé, puis je dis, bon, ça va, je passe là-dessus. Parce que voilà, comme un test d'orientation. Eh bien, c'est un peu la même chose. Bon, ici, ce n'est pas un test d'orientation, mais c'est un test qui en dit long quand même, n'est-ce pas? On voit un peu, je dis, tiens, c'est en quelque sorte, en lisant ce texte-là, on pourrait se poser la question, mais où s'inscrit dans tout ça? Où s'inscrit ma vie? Mes actions? Mes services? Mes services, vous savez, on est serviteur, hein? D'accord? Ministre, c'est bon, hein? Serviteur. On est serviteur. Ministre du Seigneur, serviteur de Dieu, ouais. Par rapport à ce passage, où je m'inscris? Hein? Alors c'est comme un simple test avant d'aller plus loin, c'est un peu ça, mais ce n'est pas que ça, évidemment le texte est bien plus riche que ça. Et donc on va relire calmement Galates 5, encore une fois, mais on va au verset 19. Et voilà, Paul explique, en effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, voilà. C'est un test, on voit. Vous voulez savoir? Ben, regardez, un comportement charnel, c'est ça. Un comportement par l'esprit, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que pour marcher par l'esprit, je dois faire ça et je ne dois pas faire ça parce que j'y arrive pas. C'est l'esprit en moi qui va produire cette chose-là. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ça. À un moment donné, tu vas lâcher. Je reprendrai certainement l'exemple la fois prochaine, mais c'est comme si je vous donne un poids, je vous donne un kilo comme ça, et tu dis, ben, moi je suis plus fort que la loi de la gravité. Ouais, attends un peu, on va attendre. Combien de temps tu tiens? Et tu vas voir que la loi de la gravité, la loi du péché et de la mort, tu vas voir qu'elle va, à un moment donné, c'est elle qui va rigoler. Voyez? Et donc, il faut l'Esprit de Dieu pour faire ça. Mais, c'est révélateur, voici le comportement inspiré par l'être instinctif. Il est facile à reconnaître. C'est clair, hein, au moins. C'est du bon français, hein. Il est facile à reconnaître. On sait bien de quoi il est capable. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité. Ça veut dire tout, la sensualité, tous les sens, tout. Je l'ai déjà dit, vous le voyez, ce n'est pas que j'aime insister là-dessus, mais par rapport à la sexualité, la Bible insiste quand même en disant que il y a quelque chose de spécial, mais pas de spécialement bon, de spécialement mauvais, non pas la sexualité en elle-même, évidemment, loin de là, mais dans un cadre autre que le Seigneur nous a donné. Alors, ça commence par des pensées impures. La sensualité, vous voyez, c'est quelque part, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement, mais bon, voilà, il y a plusieurs mots de toute façon. Hein. L'immoralité, on n'aime plus le mot moral, mais pourtant, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, on y est. Hein. Du moment que tu ne fais pas de mal à ton voisin, bah, tu iras au paradis. Hein. c'est n'importe quoi. Hein, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça, le libertinage. C'est comme ça maintenant. L'adultère, la débauche. Eh bien, ça, c'est la loi de la chair. C'est la loi du péché et de la mort. Ensuite, l'adoration de faux dieux. Ça va des statues en marbre, en passant par celles en plastique, rempli d'eau. Lesquels? Les smartphones aussi. Parfois, il y en a qui se prosternent devant pendant au moins 4 heures toute la journée. 4 heures par jour, pardon. Mais bon, c'est vrai, ça peut être des choses. Ça peut être son argent, sa maison. Parce que je place ma confiance dans ces choses-là. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Ça va, tout est bien. Rien ne peut m'arriver. Comme j'ai fait l'autre fois, mon compte en banque. Oh, je t'adore, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je ferais? Mais rien ne peut m'arriver, de toute façon. Il y a de quoi. il y a de quoi prévoir. Bon, voilà, les faux dieux, la superstition. Oh là 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 là, la superstition. Parfois même de la superstition religieuse. Oh, on est parti en voyage. J'ai un pneu crevé. C'est parce qu'on a oublié de prier avant de partir. C'est de la superstition. C'est de la superstition. Ben oui. Alors finalement, au lieu d'être libre, tu es lié. Parce que tu dis, attention, pas oublier de prier avant de manger, pas oublier quand je me lève, la première chose que je dois faire, j'oublie les règles comme ça, je prie tel moment. Puis, c'est quoi, tu aimes le Seigneur ou finalement tu es dans les chaînes? C'est pas comme ça, je dis pas qu'il faut pas prier, je dis pas qu'il faut pas prier avant de manger, tu peux, et fais-le, c'est bien. Mais d'accord, la superstition, alors évidemment il y a l'autre superstition, hein, horoscope, tarot, tous ces trucs-là, oulala. Non seulement c'est pire que des superstitions, c'est des trucs du diable, déguisé, mais qui vous enchaîne, et vous ne savez même pas que vous êtes enchaîné. Mais un jour, vous le verrez. Alors, continuons. L'occultisme, sorcellerie, magie, voilà, ce sont les œuvres de la chair et ce sont les œuvres du diable. Et on est en plein dedans. Si vous dites à quelqu'un, je t'invite à venir avec moi à l'église, tu vas voir, il y a Dieu est vraiment présent, il y a quelque chose, il change les vies, etc. Chrétien, Jésus, tout ça. Si vous lui dites, on va faire une partie de Ouija, tu vas voir, c'est marrant. Ah ouais, c'est chouette, on va essayer. Si tu lui parles, voir de bouddhisme, etc. Ouais, chouette, on est dans la génération des vieux babacool. Alors ça va marcher, etc. Ça, c'est chouette. Vous voyez, c'est comme si on suivait des modes. Mais attention aux modes, parce que ça tue. Mais vraiment, ça tue. Hein, et ça tue pour l'éternité. L'occultisme, sorcellerie, magie, toutes ces choses. Puis ce sont les inimitiés. Donc ça veut dire, les inimitiés, ça veut dire les mauvais sentiments, enfin je ne sais pas comment dire, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère. Eh bien ce sont des signes contraires à la marche par l'esprit. Les accès de colère, les intrigues. Moi, je m'arrête aux accès de colère parce qu'on passe à autre chose après. Mais vous voyez, toutes ces choses-là sont des signes que je ne marche pas encore par l'esprit. Je veux dire, il y a des choses qui ne vont pas quand même. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on se penche là-dessus la semaine prochaine. Parce que normalement, l'esprit de vie qui est en moi doit me transformer. Donc ce sont des signes, ça va ? Ce ne sont pas des signes pour s'éloigner de la présence de Dieu, je l'ai dit, mais des signes pour s'en rapprocher. Ouais, hein, des signes pour s'en rapprocher. Ça va? Alors, donc, ensuite, les intrigues, les cabales, les rixes, bon, c'est les bagarres, je veux dire comme ça, les intrigues. Ouais, j'aime bien ce mot-là, parce que des fois, il y a des intrigues, hein. Il y a des églises, finalement, vous avez l'impression d'être dans un parti politique. On vote, avant les votes, on se parle, on visite de maison en maison. Enfin bon, il n'y a pas ça ici, mais je veux dire, mais ça peut être autrement. Et puis voilà, vous voyez, c'est quoi les intrigues, la manipulation. Vous voyez, toutes ces choses-là. Les rivalités inspirées par les ambitions égoïstes. Rivalités inspirées par des ambitions égoïstes. Et on trouve ça pas seulement en dehors, pas seulement dans votre vie de demain lundi, mais dans l'église. Pourquoi je fais ça? Saint-Esprit, dirige-moi. Un esprit d'humilité, de service, qu'est-ce que j'ai à gagner? Pourquoi j'ai besoin d'être vu, de me sentir peut-être, je ne sais pas, utilisé par Dieu ou je ne sais pas quoi? Non, c'est pas le Saint-Esprit ça. Désir égoïste, ambition égoïste, et aboutissant à des dissensions et à des scissions dans l'Église. Bah oui, évidemment. En plus, on explique bien à quoi on arrive. C'est, donc il dit c'est quoi ? C'est l'esprit de parti. Le sentiment d'être seul dans la vérité. J'en ai parlé la fois passée. De toute façon, moi je dis, mais non, je sais, c'est comme ça. Sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont des fausses doctrines et leur cortège de division, de machin, etc. C'est la haine, l'envie, et puis l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles, tous les excès de ce genre. Alors je ne puis que répéter, dit l'apôtre Paul aux Galates, je ne peux que le répéter. Je l'ai déjà déclaré. J'ai déjà déclaré ces choses-là à ce sujet. Celui qui commet, donc qui vit, qui accepte ces choses, qui vit dedans, c'est ça qui commet, pas celui qui dit « Oh zut, j'aurais pas dû, pardon. » Mais celui qui accepte, qui reste là-dedans, qui ne lutte pas contre, qui ne veut pas marcher par l'esprit. Donc, celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Voilà, voilà les choses de la chair. Ensuite, donc voilà, test, facile, hein. C'est comme le truc dans le télé, on peut pas faire de pub, hein. Ah bien sûr, on peut faire de pub, tout ici. Bon, télé-pro, télé-musique, ouais, des tests, les tests là, vous êtes un gentil mari, vous êtes un, voilà les trucs, hein, voilà. Soit. Alors, je ne peux pas prétendre que je marche par l'esprit alors que je ne me soumets pas à la parole, voyez? Alors que ma vie ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit. C'est basique, mais apparemment pas pour tout le monde. Si je ne sais pas me soumettre, si je suis un électron libre, voyez, si je ne supporte pas la contrariété, si je ne sais pas être corrigé, si, voyez, je ne marche pas par l'esprit. Il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire. Ça va? Si je suis mes propres pensées, ça ne va pas. La suite du texte répond en partie à une question que plusieurs se posent, comment savoir ce que l'Esprit nous demande? Parce que ça aussi c'est une question, oui mais je ne sais pas ce que l'Esprit me demande. Eh bien, sachez une chose, et là j'ai quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui peut-être, parce que tout ce que j'ai dit là, certains savent tout par cœur, savent certainement tout par cœur, hein. Mais je vais vous dire quelque chose d'important quand même. Bien avant de vous demander, je recommence, comment peux-tu savoir ce que l'Esprit te demande? Parce qu'il y en a qui disent, moi je ne sais pas ce qu'il me demande. Eh bien, sache que l'Esprit de Dieu, avant de te demander d'être bishop, prophète des nations, ok, grand serviteur de l'Éternel, ou peut-être plus modestement, je ne sais pas, le meilleur serviteur de l'église de Warham, ça serait plus modeste. Hein, avant de te demander ça, il veut simplement que tu portes du fruit. C'est ça que l'Esprit te demande, que tu portes du fruit. Pas que tu sois vu, pas que tu sois plein de dons, de charismes, des choses. Waouh, comme il a, quelle onction du Saint-Esprit celui-là. Non, mais que tu portes les fruits de l'Esprit. Parce que la plénitude de l'Esprit, la marche par l'Esprit, se manifeste, oui, elle est visible. Vous voyez, quelqu'un qui marche par l'Esprit, ça se voit, et ça se voit. Comment? Pas par toutes ces choses-là, et pas, ça ne se voit pas avec les médailles, voyez. Un vieux colonel ou général de l'armée, on voit avec toutes ces vieilles médailles-là, voyez. Le reste sans le moisi, mais les médailles sont bien brillantes. Voyez le truc, elles sont frottées aux idoles. Ben oui, mais c'est pas comme ça avec Dieu, voyez. C'est pas comme ça. Quand tu marches par l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Donc, ça se voit, on voit parce que cette personne, elle est remplie d'amour, elle est aimable, elle s'en prend des claques, et non, pleine de compassion, etc., etc. Il suffit de lire le texte, hein. Le Saint-Esprit veut simplement que tu portes du fruit, le fruit de l'esprit. Car l'Éternel, c'est au verset 22, pardon, non, il serait temps que je porte des lunettes. Enfin, j'en mets parfois un peu. Mais ici, ça va. Bon, soit. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit. Alors, il explique. Le fruit de l'Esprit. Deux petits points, c'est moi qui les ajoute. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur. La douceur? Moi, je marche par l'esprit et tu ne m'arrêteras pas. Bouge-toi de là. Ouais, ben c'est comme ça, hein. C'est moi qui décide qu'on coupe la tarte en 8 et pas en 6. la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. Quelle traduction, j'aime bien moi cette traduction, c'est pour ça que je l'ai choisie. Hein. Elle explique. La tempérance, vous voyez la tempérance, au lieu de mettre, comme on dit, de l'huile sur le feu, eh bien, tu mets de l'eau dans ton vin. Retiens, Brigitte, ça va? Non, mais je lui dis parce qu'elle mélange toujours les expressions, vous voyez. Alors, on lui fait une queue de rat sur la... Enfin, je ne sais plus c'était quoi. Bon, je me fous toujours, on se moque toujours d'elle chez nous parce qu'elle mélange les expressions, voilà. Donc, ce n'est pas de l'huile dans ton vin, hein. Donc, vous ne mettez pas de l'huile sur le feu, mais vous mettez de l'eau dans votre vin. D'accord? Ça va? Vous avez compris? La tempérance. La chasteté. Oh. Ah ouais? La maîtrise de soi. Jacques, il dit des choses là-dessus. Lui, hein. On ne va pas le citer aujourd'hui, on ne va pas le lire, mais celui qui sait dompter sa langue, il est plus fort que celui qui dompte à... Un rhinocéros en furie, je ne sais pas quoi, ça c'est moi qui le dis, parce qu'on ne voit pas ça dans la Bible. Alors je passe directement au verset 24, on parle de la loi. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui. Voilà. Ah oui, il y a la nouvelle naissance, mais il y a la mort. Et donc, il est mort avec Jésus-Christ, à ses projets, pas au projet de Jésus-Christ, au sien, hein. Il est mort à ses projets et à ses plans personnels. Verset 25, puisque l'Esprit est la source de toute vie, laisse-toi aussi conduire par lui, suivant ses indications. Ben vous voyez, vous avez déjà des indications. Suivant ces indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que votre vie, elle aussi, soit spirituelle. Dernier verset, ne cherchons donc pas de vains succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant. Mais moi pas, hein. Arrête, jamais, arrête. En nous enviant, et en nous jalousant naturellement. Mutuellement. Ah, j'ai vraiment besoin de... ah oui, je devine, je commence à deviner les mots. Mais c'est notre nature. Hein, ça va. Faut bien que je me rattrape. C'est notre nature. La jalousie. Ah ouais. Celui qui dit, oh, moi je déteste la jalousie. Ben, commence à crucifier ta chair alors. Parce que c'est dans tout le monde. Tu as hérité du même sang que tout le monde. Oh, je déteste l'hypocrisie. Ben, commence à te soigner alors. Marche par l'esprit, parce que c'est dans ta nature. Ça va? Et voilà. J'arrive à la fin parce que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je sais que ce sont des bases et puis on ira un peu plus profondément la fois prochaine. Sachez que, seulement ceci, c'est qu'il y a des signes évidents de la plénitude du Saint-Esprit. Ça se voit extérieurement. On vient d'en voir les caractéristiques. Et je voudrais vous faire remarquer que si ces signes ne sont pas en vous, ne se voient pas, c'est qu'il faut non pas vous éloigner de Dieu, mais vous en approcher. Ça va ? Vous en approcher pour mieux l'entendre, pour mieux lui laisser faire ce qu'il a à faire. Je vous dis déjà une petite chose comme ça, vous allez dire, ouais, mais parce que vous allez peut-être un peu rester sous votre faim. Rappelez-vous, quand vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, quand vous êtes converti, si c'est le cas, rappelez-vous les choses qui sont tombées à ce moment-là, les choses, des pensées qui ont changé, des désirs qui ont changé, les premières choses déjà que l'Esprit a commencé à faire. Et vous avez dit, non, je ne fais plus ça, non, je change. Et puis ça a été une joie même de le faire. C'est l'Esprit qui a produit ces choses-là en vous. Est-ce que vous lui avez permis de continuer? Est-ce que vous lui avez permis de continuer? Parce qu'il peut le faire. Il est plus puissant que la force du péché et de la mort, que la puissance de la chair. Il est plus puissant. Amen. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je ne ferai pas un appel ou une prière ou quoi que ce soit. C'est un enseignement. Digérez-le et puis on verra la suite. Amen.